بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ف aujourd'hui le 23 du mois de Ramadan de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la sixième assise de notre série de cours concernant le chapitre du jeûne tiré du livre Ad-Durar al-Bahiyya de l'imam Shawkani accompagné de son explication Ad-Darari al-Mudiyya. Nous étions arrivés à la dernière partie du chapitre des annulatifs du jeûne. Il dit, rahimahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles, concernant le caractère préférable de hâter la rupture du jeûne et de retarder as-sahur, ou as-suhur, qui est le repas en fin de nuit. Et as-sahur, donc le fait de prendre le repas en fin de nuit, as-suhur. Et as-sahur, c'est le repas lui-même qui est pris par le jeûneur en fin de nuit. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, c'est en raison du hadith de Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens bien sûr de ses paroles, les gens ne cesseront d'être sur le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Dharr, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens bien sûr de ses paroles, ma communauté ne cessera d'être sur le bien tant que ses membres retarderont le suhur et hâteront la rupture du jeûne. Ce hadith est recueilli par Ahmed et il y a dans sa chaîne de transmission Sulayman ibn Abi Uthman et Abu Hatim, rahimahullah, dit à son sujet, il est inconnu. De même que الشيخ الألباني رحمه الله تعالى le qualifie de منكر. L'imam Shawkani dit ici, رحمه الله, dans le sens de ses paroles, il a été authentiquement rapporté dans les deux authentiques, dans les deux recueils authentiques, donc, le Bukhari Muslim, et autres, du hadith de Zayd ibn Thabit, رضي الله عنه, qu'il y avait entre le moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mangeait le sahur et son entrée dans la prière, le temps de lire 50 versets. Et il y a dans ce chapitre beaucoup de hadiths. Ce qui est important de retenir ici, c'est le jugement donné par l'imam Shawkani, qui est une vérité, sans aucun doute, le fait qu'il est préférable de hâter la rupture du jeûne et de retarder ce repas pris en fin de nuit, car ceci était la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith donc où il dit, dans le sens, les gens ne cesseront d'être sur le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Ceci pour la rupture, c'est-à-dire qu'il convient à la personne de se hâter à partir du moment où le soleil se couche, c'est-à-dire l'heure de Al-Maghrib, l'heure indiquée pour la prière de Al-Maghrib. À partir de là, il est autorisé et il est même recommandé, il est autorisé de rompre le jeûne. Et il est recommandé de hâter cela, c'est-à-dire de ne pas attendre 5 minutes au cas où, de ne pas attendre par exemple que Al-Mu'adhin fasse l'adhan si l'heure est passée. C'est-à-dire qu'il est possible que Al-Mu'adhin fasse l'adhan 5 minutes en retard. Il est possible que Al-Mu'adhin soit un petit peu en retard, vienne à la mosquée en retard, etc. Autre raison, mais à partir du moment où nous sommes rentrés dans l'heure de la prière de Al-Maghrib, que Al-Mu'adhin ait fait l'adhan ou non, il sera légiférer de rompre et recommander de se hâter à rompre et non d'attendre par exemple la fin de l'adhan de l'muadhdhin et autre chose que certaines personnes font parfois. Bien sûr, la base c'est que l'muadhdhin fera l'adhan à l'heure. Ici, j'émets l'hypothèse que le muadhdhin soit en retard ou retarde l'adhan, auquel cas il sera légiférer de rompre à l'heure même de la prière de Al-Maghrib et non à la fin de l'adhan de Al-Mu'adhdhin. Car certaines personnes pensent qu'il est meilleur d'attendre que Al-Mu'adhdhin a fini au cas où, comme ils disent, et ou par précaution, et ceci n'est pas légiféré. Plutôt, ce qui est légiféré, comme nous le voyons dans ce hadith, c'est d'hâter la rupture. De même que la voix de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de retarder as-sahur, le fait de prendre ce repas qui servira au jeûneur afin de tenir pendant sa journée de jeûne. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que dans ce repas il y avait une bénédiction De même qu'il nous indiqua dans un autre hadith authentique que la différence entre nous et les gens du livre était ce repas, as-sahur, et autre que cela parmi les preuves qui nous indiquent le bienfait de prendre ce repas, as-sahur, la bénédiction qu'il y a dans celui-ci, de même que la voix de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons sur le fait de le retarder en fin de nuit, peu avant la prière de al-fajr, c'est-à-dire de l'adhan de la prière de l'Fajr ou l'heure de l'aube véridique, l'Fajr. Et il est bon de prendre As-Sahur, ne serait-ce qu'avec une date, c'est-à-dire de ne pas délaisser As-Sahur, même si tu dis je n'ai pas très faim, même si tu n'as pas très faim, il est bon, afin de rechercher la bénédiction qu'il y a dans ce repas, de prendre ce Sahur, ne serait-ce qu'avec une date, ne serait-ce qu'avec une date, ne serait-ce qu'avec une gorgée de boisson, une gorgée d'eau et autres. L'imam Shawkani dit ensuite dans le chapitre suivant: Faslun fi wujubi al-qada'i wa rukhsati al-fitri lil-musafir. Yajibu ala man aftara li'udhrin shar'iyyin an yaqdiya wal-fitru lil-musafiri wa nahwi rukhsah illa an yakhsha at-talafa aw ad-dha'fa 'an al-qital fa'azimah. ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. Dans le sens de ces paroles, rahimahullah, ici donc je viens de lire al-matn, al-durar al-bahiyya, il dit dans le sens de ces paroles, dans une traduction proposée, le chapitre du rattrapage du jeûne. Il est obligatoire pour celui qui a rompu son jeûne avec une excuse légiférée de le rattraper. La rupture du jeûne est, pour le voyageur et autres, une permission, sauf si l'on craint qu'elle n'entraîne la détérioration de la personne ou la faiblesse au combat, auquel cas elle devient une résolution. Quiconque meurt alors qu'il lui incombait un jeûne, son héritier jeûnera pour lui. La personne âgée, incapable de s'acquitter en son temps du jeûne ou de le rattraper, doit expier chaque jour en nourrissant un pauvre. Ici, Al-Imam Shawkani commença en expliquant cette première partie de ce chapitre, qui est le chapitre du rattrapage du jeûne dans le livre du jeûne. Il dit, je dis, concernant l'obligation du rattrapage pour celui qui aura rompu son jeûne avec une excuse légiférée comme le voyageur et le malade. Il dit, rahimallah, le Coran est explicite à ce sujet, dans une traduction approximative du sens des versets. Ce verset qui se trouve dans Surat al-Baqarah, le verset numéro 184, il dit, subhanahu wa ta'ala, donc dans une traduction, bien sûr, approximative du sens, « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra alors jeûner, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. » Ici, une petite parenthèse, Cheikh Zayd al-Matr alayhi rahimahullah ta'ala dit dans son commentaire de « Ad-Durar al-Bahiyya », il dit dans le sens de ses paroles, « Il n'est pas impératif que le rattrapage se suive. Il est valable s'il est réparti. » Par exemple, s'il incombe à une personne ayant une excuse de rattraper 5 jours, il ne lui est pas obligatoire de les jeûner les uns à la suite des autres. Il peut le faire ainsi, mais s'il jeûne un jour puis rompt un autre, ou 2 jours ou plus, ceci est valable. Certaines personnes pensent que le rattrapage de ces jours de jeûne qui lui sont dus doit se faire obligatoirement à la suite. Ceci est meilleur de se dépêcher de rattraper afin de s'acquitter de ces jours de jeûne qui sont dus à cette personne qui aura rompu le jeûne pour une excuse valable. Il doit se dépêcher de le rattraper, ceci est meilleur. De même que s'il se dépêche, c'est-à-dire qu'il les rattrape directement après le mois de Ramadan au mois de Shawwal, ceci est meilleur. Et s'il les rattrape les uns à la suite des autres afin d'être plus rapide dans cela, ceci est meilleur, il n'y a pas de doute. Car chaque fois qu'il aura rattrapé son jeûne plus rapidement, ceci sera meilleur. Mais il n'y a pas de mal à remettre ce rattrapage à plus tard, ni directement après le mois de Ramadan, c'est-à-dire au mois de Shawwal, il peut laisser 1, 2, 3 mois s'écouler du moment que il rattrape ses jours avant le Ramadan de l'année d'après. Et il est possible pour lui d'espacer ses jours. Mais il est toujours meilleur de se dépêcher de s'acquitter de ce qu'il doit comme jours de jeûne qui lui seront obligatoires de jeûner. Il dit l'imam Shawkani rahmallah, concernant la femme en période de menstrues, il y a le hadith que rapporte Mu'adha de Aisha radiallahu anha, évoqué précédemment. Ici, l'imam Shawkani, lorsqu'il dit évoqué précédemment, bien sûr, il fait référence à la parole de Aisha radiallahu anha dans le sens de ses paroles. On nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Il évoqua ce hadith dans le chapitre des règles et des menstrues, bien sûr. un chapitre qui fait partie du chapitre 2, la purification. Donc il dit, nous avons évoqué précédemment, et ce hadith qui est voulu, c'est cette parole de Aïcha que je viens d'évoquer, radiallahu anha, dans le sens, on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Donc il dit, rahimallah, concernant la femme en période de menstrue, il y a le hadith que rapporte Mu'adha de Aïcha, radiallahu anha, évoqué précédemment. La femme en période de loshi est dans le même cas. Bien sûr, les périodes de menstrue, les périodes des règles, est une période connue. De même que les loshi désignent le sang qui s'écoule après la naissance. Puis, l'imam Shawkani dit, rahimahullah, concernant le fait que la rupture du jeûne soit une permission pour le voyageur, sauf si l'on craint qu'elle n'entraîne la détérioration de la personne ou la faiblesse au combat, auquel cas elle devient une résolution. Ici, l'imam Shawkani nous avance cet avis, qui est l'avis le plus juste, à propos duquel il y a une divergence, à savoir est-ce que le fait de rompre le jeûne pour le voyageur, ceci est une permission ou ceci est une obligation. Les savants divergent par rapport à cela. Et ce qui est le plus juste, c'est ce que l'imam Shawkani a avancé ici, le fait que ceci est une permission, c'est-à-dire que le jeûneur pourra jeûner comme il pourra rompre le jeûne. Ceci lui sera permis. Sauf si l'on craint qu'elle n'entraîne la détérioration de la personne, c'est-à-dire la détérioration de sa santé, ou la faiblesse au combat, auquel cas elle devient une résolution, c'est-à-dire qu'il devra se résoudre à rompre le jeûne. Ceci deviendra une obligation pour lui. Ici, les hadiths à ce sujet sont nombreux. Parmi eux, on trouve sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Hamza ibn Amr al-Aslami, radiallahu anhu, l'interrogea sur le jeûne pendant le voyage. Il lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens bien sûr de ses paroles, « Si tu veux, jeûne, et si tu veux, romps. » Le hadith se trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Aïcha, radiallahu anha. On trouvait également dans les deux recueils authentiques le hadith de Anas, radiallahu anhu, qui dit, « Nous voyagions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le jeûneur ne dénigrait pas celui qui ne jeûnait pas, et vice-versa. » Il dit, rahmahullah, l'imam muslim, entre autres, rapporte que Hamza ibn Amr al-Aslami, radiallahu anhu, a dit, « Ô messager d'Allah, je me sens capable de jeûner pendant le voyage. Y a-t-il pour moi un blâme ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire, « Ceci est une permission venue d'Allah, azza wa jal. Quiconque en profite, ceci est bon pour lui. Et quiconque désire jeûner, nul grief alors sur lui. » L'imam Shawkani dit aussi, on trouve également dans les deux recueils authentiques d'après un hadith de Jabir radiallahu anhu qui dit alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en voyage, il vit un attroupement et un homme évanoui. Il dit alors qu'est-ce que cela? Ils lui répondirent un homme à jeun. Il dit alors ne fait pas partie de la bonté que de jeûner pendant le voyage. Muslim, Ahmed et Abu Daoud rapportent d'après un hadith de Abu Sa'id radiallahu anhu qui dit nous partîmes en expédition avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la Mecque, en état de jeûne. Nous étant arrêtés dans un lieu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux gens en disant « Vous vous êtes certes rapprochés de votre ennemi, la rupture du jeûne vous rendra plus fort. » Ce fut donc ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, puis Abu Sa'id de dire « Ce fut donc une dérogation. En effet, certains d'entre nous continuèrent de jeûner, tandis que d'autres rompirent le jeûne. » Puis, nous nous sommes arrêtés dans un autre endroit. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, dans le sens bien sûr de ses paroles, « Demain matin, vous rencontrerez votre ennemi. La rupture du jeûne vous rendra plus fort. Rompez-le donc. » Rompez donc le jeûne. Rompez-le donc. Ce fut alors une obligation, ici la parole de Abu Sa'id, radiallahu anhu, qui dit « Ce fut donc une obligation. Par la suite, nous jeûnions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le voyage. » Ce hadith, comme l'a évoqué l'imam Shawkani, rapporté par l'imam Muslim et Ahmed et Abu Daoud, et bien sûr, est un hadith authentique. Puis, l'imam Shawkani dit, la majorité des savants adoptèrent l'avis selon lequel le jeûne pendant le voyage est une permission, comme je l'ai dit au début de ce chapitre. Il fut rapporté de quelques Al-Zahiriya. Al-Zahiriya est une école juridique affiliée à Daoud ibn Ali Al-Zahiri, qui est mort en 270 de l'Hégire. Et cette école juridique se démarque par sa méthodologie, rejetant, entre autres, l'opinion et l'analogie, et se basant sur ce qui apparaît des textes. Il est bon de rappeler que parmi les imams de cette école figure Ali ibn Ahmed ibn Hazm, Abu Muhammad, qui est mort en 456 de l'Hégire. Donc l'imam Shawkani nous dit, il fut rapporté de quelques al-Zahiriyya, ceci est aussi relaté de Abu Huraira et de al-Imamiyya, qui sont un courant extrémiste chiite, appelé aussi et plus communément al-Rafida. Ils représentent à notre époque la branche la plus répandue du chiisme. Leur religion est basée sur un mélange de croyances et de doctrines contradictoires à celles de l'islam. Il est probable que Ash-Shawkani évoqua leur avis car ils étaient très présents au Yémen. Ici, un petit commentaire de ma part lorsque je traduis cette partie du livre concernant, comme je l'ai dit dans les cours précédents, le fait que l'imam Shawkani parfois rapporte des fuqaha, des jurisconsultes de Az-Zaydiya, qui font partie d'une branche du chiisme. Parfois, ils rapportent certains avis de certains madhahib qui ne sont pas forcément évoqués très souvent dans les livres de fiqh. Parmi Az-Zahiriya, qui sont bien sûr plus évoqués que Az-Zaydiya, par exemple. Et comme je l'ai dit, il est possible que l'imam Shawkani ait parlé de l'imamiyya. Comme Az-Zaydiya, bien sûr, comme les Az-Zaydiya étaient très répandus, lui-même faisait partie de cette branche du chiisme avant d'avoir été guidé à la sunna, qui était très répandu au Yémen à son époque, de même que l'imamiyya, qui était présent au Yémen à son époque. Il est possible que ce soit pour cela que l'imam Shawkani ait rappelé leur avis, bien sûr leur avis dans al-fiqh ici, qui a pu avoir un intérêt à cette époque, sachant que leur avis concernant la croyance n'ont aucun intérêt pour les musulmans, car comme je viens de le dire, leur religion est basée sur un mélange de croyances et de doctrines contradictoires à celles de l'islam. Et l'imamiyya sont la branche du chiisme la plus répandue à notre époque. C'est ce qu'on appelle Ar-Rafida, qu'on trouve en Iran et autres, qui sont des gens très dangereux, un courant extrémiste chiite. Et bien sûr, comme vous le savez, les chiites s'opposent aux gens de la sunna. Et aujourd'hui, lorsque l'on appelle des gens chiites, donc des chiites, le plus souvent, ceux qui sont désignés, ce sont ces gens-là, Ar-Rafida, qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il faut que ceci soit bien compris de nos frères. Le fait de dire que nous pouvons nous respecter entre musulmans et chiites, etc. Ces gens-là, il faut savoir que quand de nos jours on évoque le mot chiite, cette appellation est donnée le plus souvent à ceux qui sont les plus répandus, donc Ar-Rafida, al-Imamiyya, qui n'ont rien à voir avec l'islam, plutôt qui dénigrent la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même qui dénigrent ses compagnons, de même qui juge d'apostat ses compagnons, qui estime que le Coran que nous avons entre les mains a été falsifié, et maintes autres croyances qui sont complètement en contradiction avec la croyance des musulmans. Donc que reste-t-il de l'islam après cela pour que nous puissions les appeler muslimines, que nous puissions dire de eux que ce sont simplement une divergence dans des ramifications de la religion, comme certaines personnes le prétendent. Ici donc l'imam Shawkani dit, la majorité des savants adoptent l'avis selon lequel le jeûne pendant le voyage est une permission. Il fut rapporté de quelques dhahiriyya, ceci est aussi relaté de Abu Huraira, radiallahu anhu, ainsi que de al-Imamiyya, l'avis selon lequel la rupture du jeûne pendant le voyage est obligatoire et que le jeûne n'est pas accepté. C'est-à-dire qu'une personne qui aura jeûné pendant le voyage, son jeûne ne sera pas accepté. Cheikh Zayd al-Maitre Ali rahimahullah dit dans son commentaire de Ad-Durar al-Bahiyya, dans le sens de ses paroles, l'avis qui semble le prépondérant est qu'il est préférable pour le voyageur de rompre son jeûne pendant le mois de Ramadan, prenant ainsi la permission. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah aime que l'on prenne ses permissions, de même qu'il aime que l'on se conforme à ses ordres. Ceci est un avis aussi des savants qui a été mis en avant ici par Cheikh Zayd rahimahullah ta'ala. Il y a beaucoup d'avis au sujet de la question, et parmi les avis qui sont les plus justes dans cette affaire, Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam, le fait de faire la distinction entre le jeûne pendant le voyage qui sera difficile et lourd pour la personne, auquel cas il sera meilleur pour lui de rompre le jeûne et de prendre la permission, et le jeûne qui sera lui facile pour la personne qui est en voyage, comme par exemple quelqu'un qui voyagerait d'un pays où il fait frais, il part en plein après-midi, il prend l'avion, il a 2 heures de vol, il arrive dans tel endroit où il fait aussi une chaleur raisonnable. C'est-à-dire que dans son voyage, il n'a pas trouvé beaucoup de fatigue. Il n'a pas eu beaucoup de fatigue lors de son voyage et il a été facile pour lui de jeûner. Cette personne-là, on lui dira qu'il sera préférable pour lui de ne pas rompre son jeûne, même si il sera tout à fait permis pour lui de le rompre. Mais il sera préférable pour lui afin de ne pas avoir justement de jeûne qui lui seront demandés de rattraper et afin de pouvoir s'acquitter au plus vite de ses obligations religieuses. Ceci est un avis aussi qui est avancé par certains de nos savants, qui est un avis qui est fort. Puis l'imam Shawkani, rahimahullah, l'a dit, concernant les autres cas bénéficiant de la permission de rompre le jeûne, se trouve la femme enceinte et la nourrice, celle qui allaite. Et ce, d'après le hadith de Anas ibn Malik al-Ka'abi, rapporté par Ahmed, par certains compilateurs des Sunan, et jugé bon par At-Tirmidhi, et relatant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah débarrasse le voyageur de la moitié de sa prière et la femme enceinte et la nourrice du jeûne. Ce hadith est jugé bon par Cheikh Al-Albani dans son authentification des Sunan de Abu Daoud. Et concernant la femme enceinte et la nourrice, nous verrons ce qui la concerne dans le prochain cours lundi, Inch'Allah ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin.